Tout d'abord, je vais remercier le département de la Réunion pour la formule qu'il m'a proposée et que j'emprunte, tous protocoles entendus et confondus. Mesdames et messieurs, chers amis, mon propos sera sémantique. Vous allez être étonnés. La sémantique évoque des interrogations vaguement intellectualistes sur la signification des termes. Et pourtant, je vais vous montrer que l'intitulé de cette journée dit l'essentiel de la question qui se pose, de la manière dont nous devons l'aborder. L'intitulé de la journée est « L'accès à la santé des personnes handicapées ». Je parlerai de la personne, je parlerai du handicap et de la personne handicapée, je parlerai de la santé. Et je vous indiquerai que nous touchons là, en réalité, aux racines essentielles de ce qui fait la vie en communauté, la vie en collectivité. La personne est un être qui est potentiellement doté de conscience, l'amenant à pouvoir se réclamer de droits qu'il est capable d'énoncer et de faire appliquer. Dans le cadre de la collectivité, cette personne devient un citoyen et l'exercice de sa plénitude devient un exercice de sa citoyenneté. La personne est très proche, en réalité, de l'homme avec un grand H, dont parle la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948, après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les hommes, l'on pourrait remplacer par toutes les personnes, naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Élément totalement essentiel. Parfois, la personne, l'homme, qui a des droits que l'on ne peut pas hiérarchiser, puisque tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit, rencontre des difficultés pour accéder à la plénitude de ce que permettent ces droits, non pas des droits, car ils sont inhérents à la personne, en tant qu'elle est humaine, mais en tout cas à ce qu'ils désignent, à ce qu'ils autorisent. Nous avons le droit de, mais il nous est difficile de l'obtenir, de le faire. Tout simplement parce que certaines personnes ont, comme d'autres, le droit d'être mobiles, mais rencontrent des difficultés pour l'être. Ces personnes ont, comme d'autres, le droit d'accéder à tout ce que l'on donne, la nature, la création, donne à voir, à entendre, mais ils ont de la difficulté à voir et à entendre. Comme toutes les personnes, ils ont fondamentalement le droit de se forger le libre arbitre, un libre arbitre. Ils ont le droit d'évaluer la pertinence des différents concepts, mais chez eux, il s'agit d'un exercice qui est compliqué, il est difficile. Lorsque l'origine de ces difficultés est constitutionnelle, l'on va parler de personnes handicapées. Les personnes handicapées sont premièrement des personnes, bien entendu, mais qui vont rencontrer des difficultés pour accéder à tout ce à quoi elles ont droit en tant qu'elles sont des personnes, en tant qu'elles sont des êtres humains. À ce niveau, je m'arrête pas trop longtemps, mais c'est important. C'est vraiment important. D'ailleurs, c'est amusant parce que, en écoutant les présentations, on a vu les différentes solutions choisies. Comment désigner la personne handicapée ? Première évidence, naturellement, c'est que, en tant que la personne handicapée est une personne, jamais il n'est envisageable qu'elle soit définie par la difficulté qu'elle rencontre. Dire d'une personne que c'est un handicapé est une injure extrêmement profonde, un mépris extrêmement profond. Alors vous me direz, quand j'appelle le plombier, j'appelle le plombier. Oui, mais vous appelez le plombier pour faire. Le plombier ne définit pas ce qu'il est. Vous l'appelez pour déboucher le tuyau, vous appelez le plombier. Quand vous appelez une personne handicapée un handicapé, le handicap est une partie de ce qu'il est. Et réduire ce qu'il est à ce handicap, c'est-à-dire à une difficulté et non à la personne, n'est pas possible. C'est véritablement une forme de mépris et une injure d'une très grande gravité. Maintenant, personne handicapée, comme je le dis moi, ou personne en situation de handicap. L'affaire est en réalité importante. L'on a constaté que beaucoup de personnes handicapées avaient des difficultés supplémentaires à accéder aux droits liés à leur humanité du fait des difficultés qu'elles rencontraient dans la société. En d'autres termes, des obstacles étaient mis par la société pour que les personnes handicapées puissent accéder à la plénitude de leurs droits et de leur citoyenneté. Et donc, d'une manière militante, l'on a proposé d'utiliser le terme « la personne en situation de handicap ». C'est un terme que j'ai moi-même utilisé. Toute réflexion faite, je crois que ce terme n'est pas bon. Je crois qu'il n'est pas correct. Et je vais vous dire pour quelle raison il n'est pas correct, selon moi. Premièrement, d'un point de vue général, la personne en situation de handicap correspond en fait à une certitude, à une injonction normative. Il faut absolument que la société fasse disparaître tous les handicaps supplémentaires qui s'opposent à l'accès à la citoyenneté des personnes handicapées. Oui, mais une désignation se doit être indicative et descriptive. Elle ne doit pas être normative. Il n'est pas normal qu'une désignation devienne en elle-même normative. Elle décrit. Alors, voyons de ce point de vue-là. Ce matin, pour vous rejoindre, et j'ai craint que vous ne fussiez en retard à cause de moi, j'ai été très handicapé. J'ai été très handicapé parce que l'on m'avait remis une automobile que je n'avais pas encore essayée. Hier, en descendant de l'avion, j'étais allé à la télévision, interviewé par une journaliste tout à fait remarquable, d'ailleurs. Et donc, là, je dois être avec Pierre, mon ami, pour venir vous rejoindre. Je mets la clé dans le démarreur, je tourne la clé, rien ne se passe. Je regarde partout, est-ce qu'il y a un bouton ? Rien du tout. J'étais terriblement handicapé. Terriblement. Et puis j'ai téléphoné et on a fini par me dire que si j'appuyais en même temps sur le débrayage, ça démarrerait. J'ai fait cela et effectivement la voiture a démarré, je vous ai rejoint, je n'étais plus du tout handicapé. Discutant avec Pierre hier, Pierre me dit, voyez, tout de même, on a raison de parler de situation de handicap. Imaginons que vous soyez dans mon bureau et que d'un seul coup, toute luminosité, toute lumière disparaisse. Vous seriez comme moi. Je lui dis oui, c'est vrai. Mais quand on rallumera la lumière, nous ne serons plus pareils. C'est-à-dire que votre situation, à nouveau, réapparaîtra. Lorsque la société sera idéalement, et Dieu fasse qu'elle le soit aussi rapidement que possible, lorsque la société sera idéalement aussi inclusive que possible, eh bien, il est des personnes handicapées qui garderont une difficulté. Ne pas pouvoir frémir de toutes les fibres de son être en écoutant la calache chanter Norma. Pour les malentendants, c'est un handicap considérable. Ne pas pouvoir admirer un lever de soleil sur le Piton des Neiges, c'est un handicap considérable. Ne pas pouvoir, je vais y aller à partir de demain, marcher en montagne, c'est un handicap considérable. Ne pas pouvoir, comme je le fais, me plonger dans saint Thomas d'Aquin et trouver qu'il est un extraordinaire philosophe de la liberté, c'est un handicap considérable. Et pourtant, ces personnes qui devront bien vivre avec cet handicap, ce sont des personnes fondamentales, naturellement. Ce sont des personnes, c'est-à-dire de ces personnes dont on doit reconnaître l'égalité des droits et des chances, la totale participation et l'accès à la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je ne parlerai, quant à moi, jamais de personnes en situation de handicap. Voyons maintenant la santé. La santé, tout le monde sait ce que c'est, mais pas vraiment. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de discussions et de polémiques sur ce que recouvre la santé. On a beaucoup critiqué la définition de la santé de l'article 1 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé de 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne saurait se résumer à une absence de maladie et d'infirmité. On a trouvé que cela était trop large. En réalité, c'est la seule définition correcte de la santé. La seule. D'ailleurs, pour une raison totalement évidente, et monsieur le directeur général de la santé le sait bien, c'est que environ 30% de la morbidité au moins vient du mal-être mental et social. Et donc, ne pas intégrer à la santé ce qui est une cause majeure de la mauvaise santé est évidemment non correct. L'article 2 de cette constitution de l'Organisation mondiale de la santé nous dit que l'accès au meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre est un droit fondamental de tous les êtres humains, quel que soit leur race, on parlait encore de race, c'est contestable, mais je cite le texte, quelle que soit leur race, leur religion, leur situation économique et sociale. Cet article aurait dû rajouter leur sexe et leur genre, et aurait dû rajouter, et c'est fondamental, qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas handicapée. Et nous sommes là au cœur réellement de notre propos. Revenons à cette question de l'accès à la santé des personnes handicapées. L'on voit que c'est l'un des droits absolument fondamentaux et que cette santé commence par des conditions d'un complet bien-être, on va dire en tout cas physique et mental. L'un des problèmes majeurs dans l'accès à la santé des personnes handicapées commence en réalité là. Rien n'est plus traumatisant, rien n'est plus insécurisant, en règle générale, que la situation où beaucoup, pas tous, il y a une grande variabilité, une grande variété des situations. La situation dans laquelle une personne handicapée se trouve d'un seul coup confrontée à un univers qui est extrêmement lointain de l'univers qui s'était constitué, qu'il s'était constitué et qui lui assure le meilleur bien-être et la meilleure autonomie. Un élément totalement essentiel. De ce point de vue, d'ailleurs, Il faut bien s'interroger, monsieur le directeur de l'ARS l'a déjà fait, il faut bien s'interroger sur ce que recouvre la notion d'autonomie et en particulier la question de l'autonomie d'une personne handicapée. Là encore, l'autonomie fait partie du fait qu'elle est une personne, qu'elle est un être humain, qu'elle est un citoyen. Mais le handicap fait qu'elle a de la difficulté à l'atteindre. Dans beaucoup de situations, pas toutes heureusement, mais dans beaucoup de situations, la meilleure autonomie qu'une personne handicapée est capable d'atteindre, en réalité, est atteinte par un être hybride qui est constitué de la personne handicapée et de son accompagnant, de son aidant. Il faut le considérer comme tel. Les séparer, pour quelque raison que ce soit, dans quelque condition que ce soit, est une violence importante qui commence par nier les conditions dans lesquelles peut s'exprimer la meilleure autonomie d'une personne qui est handicapée pour y accéder. Ça, c'est un point absolument essentiel. En effet, l'habitude, aux urgences par exemple, dans de nombreux cas, nous l'avons tous vécu, lorsque la personne que l'on accompagne rentre dans le cabinet, aux urgences, voit les docteurs, les médecins, alors on commence à demander aux accompagnants de rester dehors, d'être à l'extérieur. Premier élément, c'est pas possible. Premier élément, profondément, c'est pas possible. Car cela signifie que le premier acte de prise en compte de la situation d'une personne handicapée est d'aggraver son handicap en diminuant l'autonomie à laquelle elle avait accédé grâce à cette connivence, à cette fraternité avec la personne accompagnante. La personne accompagnante doit être également bien définie. Et je l'ai fait maintes fois dans d'autres circonstances, autour de l'étymologie, toujours la référence sémantique, autour de l'étymologie du verbe accompagner. Cela vient de partager le pain avec, comme panere, partager le pain avec. Cela signifie que la personne que l'on accompagne n'est pas une personne inconsciente dont on doit prendre la tutelle, c'est qu'elle est profondément un compagnon, un égal, avec lequel on va partager le pain, même si bien évidemment, entre égaux, l'obligation d'égalité, de fraternité, de liberté est entière. Mais cette manière de partager le pain avec crée néanmoins cette cellule du compagnonnage qu'il n'est pas question de pouvoir briser. Arriver à se rendre compte de ce qui est en jeu derrière l'accès à la santé des personnes handicapées nous dit beaucoup de nos sociétés. Nous dit beaucoup de ce que nous construisons ensemble. Car il a été dit par la dernière intervenante que les progrès que l'on ferait pour améliorer l'accès des personnes handicapées à la santé pourraient bénéficier à toute la population. C'est vrai, c'est intégralement vrai. Mais au-delà, la question des personnes handicapées en règle générale. La question en particulier de l'accès à la santé des personnes handicapées est emblématique, totalement emblématique, de ce qu'est la signification d'une société qui se construit, qui s'établit et qui peut se juger elle-même. En effet, posons-nous la question. Quel est le but d'une société ? Nous voulons faire société. Nous établissons des régimes politiques pour le faire. Dans quel but ? Le but principal est de créer les conditions telles que, au-delà des intérêts individuels qui doivent être préservés, il faut que l'on arrive à protéger chacun de l'excès de la manifestation de ses intérêts individuels, la liberté de chacun s'arrêtant là où elle pourrait nuire à celle d'autrui, c'est-à-dire créer un ensemble qui soit le plus propice à chacun de ses enfants. Or, chacun de ses enfants, c'est tous ses enfants, bien entendu. La totalité de ses enfants. Et, ma foi, lorsque l'on se fixe un but à atteindre, l'égalité des chances et des droits, la participation et l'accès à la citoyenneté. Ça n'est pas un gros problème, cela n'est pas une grosse difficulté. S'il s'agit d'en assurer le droit à ceux qui n'ont aucune difficulté pour le faire valoir. Par conséquent, là où se juge une société, c'est par sa mobilisation pour les plus fragiles d'entre ses enfants. C'est là où on juge réellement une société. Parmi ces plus fragiles de tous les enfants, il y en a d'autres naturellement, mais il y a celles et ceux qui ont ces difficultés constitutionnelles pour accéder aux attributs de leur citoyenneté. Et en particulier, même pour accéder à ce droit de l'homme, sans préjudice de leur race, de leur sexe, de leur handicap, qui est le droit à la santé. Si bien que ce qui se joue aujourd'hui, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est naturellement de notre devoir moral, mais aussi de notre devoir de citoyen, envers toutes les sœurs et tous les frères qui sont affectés par ce handicap, qui sont des personnes handicapées. Et ce dont nous parlons réellement, c'est de la justification de vivre en société. Je vous remercie.